faire des fumées ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui va en couille.
Cannabis circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous allez faire passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Radio Canus en 2.9 MHz, c'est la plus rebelle des radios, et c'est comme tous les lundis soirs, la fameuse, l'unique Cannabis Circus, l'émission du cirque qui va vous parler de weed, d'herbe, de cannabis, de chanvre, de CBD, de THC, de CBN, et de tous les autres cannabinoïdes, l'émission qui va vous parler beaucoup de CBD aujourd'hui, de l'huile de CBD, du vapotage au CBD, du CBD contre le cancer du prostate, bref, on va vous parler CBD. Après, on ira vous parler de quoi d'autre? De la tension artérielle par rapport au cannabis, à la consommation régulière de cannabis. On va revenir sur la légalisation en Allemagne. Ouh là 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 là, ça avance. Ouh là là, l'Europe pourrait dire oui. Et puis pour finir, on ira faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique pour aller voir ce qui se passe à New York et dans le Maryland. Michigan. Et dans le Michigan, oui, pourquoi j'ai dit Maryland? Ouais, dans le Michigan, tout à fait, voilà, c'est ça. Bref, et puis pour commencer, ben une petite, un petit texte de New Sweden sur ces maires qui veulent légaliser le cannabis dans leur ville. Il nous manque qu'un président qui voudrait le légaliser dans son pays, mais bon.
Pas m'entendre. Voilà, voilà, ça va être déjà mieux.
Ouais, c'est un petit texte, tu disais donc.
Bon, c'est un petit. En fait, c'est un... on en a déjà parlé. En fait, c'est un article qui nous parle essentiellement du maire de Bègles qui s'appelle Clément Rossignol-Puech.
Ouais, mais pas que de lui.
Ben, beaucoup de lui, en fait. Pourquoi de lui d'abord? Parce que, en fait, c'est lui qui fait partie de ces maires. Qui a écrit à Monsieur Macron pour de lui demander de faire partie de la ville expérimentale, faire de Bègles un territoire d'expérimentation nationale pour la culture, la vente et la consommation de cannabis récréatif. Effectivement, c'est pas le seul. Il y a d'autres élus qui voudraient que ça change. Mais
il y a surtout des maires de gauche comme Éric Piolle qui a répété à plusieurs reprises.
Oui, mais Éric Piolle, il a pas écrit à Macron comme l'a fait le maire de Bègles.
Non, il a redit et répété qu'il fallait légaliser le cannabis.
Oui, oui, certes, mais bon, ok, d'accord. Enfin bon, là, en tout cas, c'est.
Voilà. Et il a dit quand même que. Que les maires sont plus pragmatiques face aux coups de menton de Darmanin, Valls ou Sarkozy qui répètent qu'ils vont éradiquer la drogue alors que rien ne change.
Tout à fait.
Voilà, mais sinon, pour revenir avec de la blague à blague, et ben ça crée un vrai problème de tranquillité publique dû au trafic de cannabis. Il y a plusieurs lieux de vente à proximité des arrêts de tramway dans le quartier de Terre-Neuve. Le trafic date des années 60 alors qu'il y a eu plusieurs plans de rénovation urbaine depuis. Bref, ça tient pas. En fait, à la rénovation urbaine, hein, les points de deal, ça tient du fait qu'il y a une demande et qu'il y a de l'argent à se faire, c'est tout. C'est simple. Bref, en tout cas, les canamères, ils ont été reçus par Olivier Véran. Les canamères, c'est marrant, hein. Voilà, donc il y a le maire de Reims, le maire de Châteauroux, le maire de Charleville-Mézières. Voilà, donc ça, c'est les verts de droite. Mais il y a aussi des maires de gauche, comme celui de Bègles, dont on a parlé, celui de Grenoble. Voilà.
Ouais, après, je suis d'accord, mais bon, sauf que, excuse-moi, hein, tu mélanges un peu.
Tout, oui.
Bah, disons que, ouais, effectivement, Véran a reçu des canamères il y a 3 ans.
Ouais, voilà. Ça fait quelques temps.
Là, le fait que le maire de Bègles écrive à Macron, c'était il y a pas très longtemps, quoi.
Oui.
Donc oui, bon bref, mais effectivement, il y a des... On peut synthétiser et dire qu'effectivement, il y a des élus locaux en France qui sont favorables à une légalisation dans leur commune, enfin qui voudraient que leur commune, en tout cas, fasse partie de projets pilotes un peu expérimentaux dans une légalisation contrôlée par l'État, notamment du cannabis, dans l'intention notamment aussi de d'améliorer la tranquillité publique et de lutter contre la délinquance. Sans pour autant appuyer sur le tout répressif et vouloir faire arrêter des gens, et, etc., etc. Comme justement tu disais Darmanin et ses prédécesseurs.
Ouais.
Tous ses prédécesseurs, même, je dirais. On peut remonter jusqu'aux années 70.
Ouais, tous, ils ont eu la même. On va terroriser les terroristes, on va terroriser les petits vendeurs de drogue.
Oui.
Voilà, bon ouais. Bref, il y a même la Creuse. Bon,
oui, on en parle parlé, d'Éric Correa,
on a
oui.
parlé plusieurs fois de...
Éric oui. Correa.
Tout à fait. Qui veut que son département puisse cultiver l'or vert. Voilà, donc... Et il est arrivé à faire quand même signer un plan particulier pour la Creuse avec je sais pas quelle personne du gouvernement. Et dans la page 12, l'EDA s'engage à examiner ses modalités de mise en œuvre des conclusions définitives du comité scientifique sur le cannabis thérapeutique en France. Et après, il aimerait que l'État autorise les agriculteurs creusois à faire pousser du cannabis pour fabriquer ces médicaments. Mais bon, on n'en est pas tout à fait encore là, a priori.
Voilà. Là,
donc
non,
le cannabis est quand même écrit noir sur blanc. Hein, c'est rare dans des dossiers officiels que des gens s'engagent un peu. Mais bon. Le préfet de la Creuse a quand même pris du bout des doigts la proposition.
Voilà. Oui, ben il était certainement pas aussi proactif que Correa justement. Et voilà, donc Correa, lui, il a bien insisté pour que ce soit, on utilise bien le mot cannabis, et que la Creuse soit justement considérée comme un département pilote, etc. Voilà, c'est tout. Bon. Ça avance doucement, une fois de plus, voire très 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 doucement même.
Et pour conclure, non, ou à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter là-dessus, sinon j'allais finir, puisque l'article finit par la Suisse.
Oui, ben en fait on explique que pour que ça puisse vraiment prendre forme, il faut quand même légiférer au niveau national. Et que ça peut pas se faire uniquement au niveau local, et que si en Suisse ça a avancé au niveau local... C'est parce qu'il y a quand même eu une verticalité, quoi. En fait, au niveau national, ils ont dit oui, vous pouvez faire ci, vous pouvez pas faire ça, nanani, nanana. Bon, bah, et puis on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Les expérimentations qui ont démarré, alors à Genève, mais aussi dans la ville de Bâle, où aujourd'hui 370 habitants sont volontaires et peuvent avoir librement accès à du cannabis à condition d'être suivis médicalement. Ben tout ça, ça a pu se faire uniquement parce que au niveau national, on a dit ok, on va expérimenter ça. Et Robin Reda, qui est un député républicain, qui est cité à la fin de l'article, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Malheureusement, il dit voilà, c'est pas demain la veille qu'on va voir un texte comme ça arriver à l'Assemblée nationale. C'est de la politique fiction, il dit-il. Hein, lui qui a été président de la mission d'information sur le cannabis, voilà. Mais il dit, il rajoute quand même en disant, mais parfois, les meilleures fictions donnent parfois de résultats bien réels. Donc c'est bien de partir dans la fiction pour peut-être déboucher sur quelque chose de réel par la suite. On espère. On espère. Voilà. Alors bon, voilà. Moi, ce que j'en dis, et là-dessus, je change pas d'avis. Hein, j'ai toujours dit ça. Même en 2012, quand on a vu les États-Unis, l'Uruguay, voilà, bon, je m'étais dit, à mon avis, en France, pas avant, on verra ça peut-être dans 20 ans. Donc c'était il y a 10 ans, ça nous envoie en 2032. Et je me demande si en disant peut-être dans 20 ans, j'ai pas été trop optimiste. Hein, quand on voit un peu quand même les échéances politiques, les partis, tout ça en France, je me demande si on peut pas rajouter encore 10 ans de plus. Voilà. J'espère me tromper, mais j'étais plus optimiste il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Et déjà, il y a 10 ans, je disais, on verra dans 20 ans. Alors, bon, voilà. Et
bon, ouais, je vais mettre de la musique, allez. Parce que là, tu nous as plombé l'ambiance. Hein.
Ah bah oui, mais bon. Allez, à tout de suite.
Tepu Style, écrit par les fils de Tepu.
Voilà, voilà. Un groupe français qu'on connaît bien. Alors.
Alors, un article. Qu'est-ce qu'on en parle du CBD ? Qu'est-ce qu'on en dit du CBD ?
Alors, du CBD, je ne sais pas. Mais des huiles qui contiendraient. Je dis au conditionnel, vous allez comprendre pourquoi. On va voir. Donc, c'est un article de Slate. Du 16 mars dernier que je trouve très intéressant, mais il ne donne pas l'information que j'attendais, qui pour moi était quel est le pourcentage de CBD réellement contenu dans ces huiles au CBD, et ça on n'a pas la réponse. Alors on a quand même des infos, mais j'ai toujours pas ma réponse. J'ai toujours pas ma réponse, quoi. Donc ça m'énerve un petit peu, je vous cache pas.
Bon, pourtant, c'est un livre, un texte très très long qui est écrit par Lord Azinière, hein, pour ne pas la citer. C'est sorti dans Slate. Et donc, il y a l'interview, entre autres, le monsieur Nicolas Autier, qui est médecin psychiatre en chef du service de. Médecin psychiatre et chef de service au CHU de Clermont.
Donc, c'est voilà. Régional en plus.
Donc, il rappelle que 65% des Français ont déjà entendu parler du CBD et 17% en font de l'usage de façon ponctuelle ou plus ou moins régulière. Voilà, pour apaiser le stress et l'anxiété, améliorer le sommeil et ou soulager des douleurs chroniques. Voilà, donc il est assez facile de aisé de s'en procurer des produits à base de CBD sous de multiples formes, fleurs, huiles, gommes, infusions et même chocolat.
Voilà, et encore une fois, je répète, sans qu'on sache précisément le pourcentage de CBD contenu dans toutes ces préparations. Ça, enfin, en tout cas, c'est pas dans cet article qu'on a l'information. Et jusqu'à présent, je ne me semble pas avoir vu de passer d'article où on nous donne le pourcentage de CBD contenu dans ces préparations. Donc voilà, on ne sait pas si c'est moins de 1%, si c'est entre 1 et 5%, plus de 5%, plus de 10%. Voilà. Alors pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse ? Eh bien tout simplement parce que en fait si vous achetez effectivement une préparation quelle qu'elle soit et qu'il y a moins de 1% de CBD dedans, vous pouvez bien dire qu'effectivement il y a du CBD, mais il y en a tellement peu. Alors effectivement, quand il y en a très peu, ben c'est facile, on peut parler de cannabis bien-être. En même temps, avec si peu de CBD, je vois pas bien ce que ça peut provoquer en termes de bien-être. Voilà, si effectivement après il y en a une quantité beaucoup plus importante, on sort du cannabis bien-être, on entre dans le médical. Voilà, enfin en tout cas, voilà, moi je trouve que y a quand même un peu d'esbrouf là-dedans, quoi. Je suis désolé, hein, je vais pas me faire des amis en disant ça. Voilà. Bon, alors par contre, quand même, dans cet article, on a quand même des informations sur ce que peuvent contenir notamment les huiles. Voilà. Parce que les huiles, c'est quand même près de 50% des ventes en France. À l'échelle mondiale, pardon, pas en France, mais à l'échelle mondiale. Alors, Nicolas Autier, il explique que c'est une forme qui est privilégiée par les personnes qui sont plus âgées.
C'est l'huile de CBD hein, qui représente 50% des ventes à l'échelle mondiale.
Bah, j'ai dit quoi?
Mais par contre, c'est
cette phrase... Tu me laisses finir ma phrase quand même, non?
Ouais, mais il est bizarre la phrase qu'ils disent, quoi. L'huile de CBD représenterait près de 50% des ventes à l'échelle mondiale, mais on ne sait pas si c'est des ventes de CBD ou c'est des ventes d'huile ou de cannabis.
Ah, c'est bien, c'est sûr que non. C'est ce que j'essaie d'expliquer, justement.
Ah, tu essayais d'expliquer que c'était pas clair. D'accord.
Bah, qu'en fait, encore une fois, je sais pas si tu m'as écouté, on ne sait pas la quantité de CBD dans ces préparations.
Oui, mais c'est pas ça. Mais
bah si, ça en fait partie quand même. Si on dit CBD et que dedans il y en a quasiment pas, moi je trouve qu'on est limite, on n'est pas loin de la publicité mensongère. Voilà. Donc bon, là voilà, alors, l'huile de CBD représenterait, alors, je cite hein, ce que dit la journaliste, près de 50% des ventes à l'échelle mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je cite.
Oui, mais je suis bien d'accord.
Voilà. Et Nicolas Autier donc dit cette forme est privilégiée.
Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas si 50% des ventes à l'échelle mondiale, mais des ventes de quoi ?
Et de l'huile de CBD. C'est écrit noir sur blanc.
Ces différents produits, l'huile de CBD représenterait près de 50% des ventes à l'échelle mondiale.
Bah oui,
mais 50% des ventes d'huile ou 50%
des produits avec du
des
CBD.
Produits à base de CBD, voilà. Oui, peut-être.
Donc cette forme, voilà. je continue, cette forme est privilégiée par les personnes plus âgées qui souffrent d'anxiété, de troubles du sommeil ou de douleur. Voilà ce que dit monsieur Autier.
Mais voilà. Enfin, bon. Qui consomme donc du CBD en France?
Beaucoup de gens...
C'est pas très clair. Hein.
Non plus. Alors, Faten Saleh, hein, qui est fondatrice de Homies, qui est une marque française de chanvre bien-être, elle dit « Les consommateurs n'ont pas encore les bonnes grilles de lecture et les bons référentiels pour faire leur choix et ont tendance à manquer de vigilance quant à la traçabilité de leurs huiles. Même les vendeurs ne savent pas toujours exactement ce qu'ils commercialisent ou alors ils simplifient beaucoup leurs explications. En réalité, ces huiles sont une sorte de soupe, un mélange complexe de multiples composés. » Voilà ce que dit en complétant les propos de Faten Saleh, le professeur Autier. Et là, alors là, on apprend quand même pas mal de trucs. C'est que l'huile qui est utilisée pour faire la préparation de l'huile à base de CBD, bah c'est pas partout la même. Il y a des endroits, enfin il y a des acteurs de la filière qui utilisent de l'huile de coco. Est-ce qu'elle est neutre en goût, voilà, bon. Et Faten Saleh, là, qui répond à l'interview, elle dit qu'elle a opté pour l'huile d'olive.
Non, on peut utiliser l'huile de chanvre ou l'huile de coco, oui.
Bah oui, mais sauf que là, il y en a, enfin.
Bah, elle pense que l'huile d'olive se consomme plus longtemps que les autres, donc c'est mieux. Voilà, et donc c'est bien de mettre du CBD dedans parce qu'il est lipophile, donc il se dissout très bien dans les huiles. Voilà, mais...
Alors, un membre du cirque m'envoie un petit SMS pour me dire, mais c'est marqué sur les fioles le pourcentage. Donc, ceci dit, ça ne répond pas complètement à ma question. Ça ne me répond pas complètement à ma question. Alors, je ne sais pas, effectivement... je sais pas, je suis dubitatif, mais alors effectivement je veux bien admettre, reconnaître mon erreur. Voilà, en tout cas par rapport aux huiles dont on parle là, qui sont utilisées, ou l'huile d'olive ou l'huile de coco, toi tu disais l'huile de chanvre, mais là il n'y a pas dans l'article, on nous parle pas de l'huile de chanvre, ou j'ai mal lu?
Si je pense bien avoir lu l'huile de chanvre quelque part. Mais bon, en tout cas, le choix de l'huile végétale utilisée dépend de chaque marque, sous la ligne toujours Faten Saleh. Certains déclinent utiliser de l'huile de chanvre. Certaines décident d'utiliser de l'huile de chanvre de manière à avoir une forme de cohérence. D'autres optent pour l'huile de coco qui a un doux neutre. Elle préfère l'huile d'olive qui a le mérite de pouvoir se conserver longtemps et qui correspond à mes appellations en matière de provenance. Voilà.
D'accord, oui. Oui, effectivement, il y avait ça, oui, qui prenait une certaine préfère d'utiliser l'huile de chanvre pour une forme de cohérence, d'accord. Bon,
en tout cas, les concentrations proclamées ne correspondent pas toujours à ce qu'il y a dans le produit. Aux États-Unis, 50% des vendeurs qui affichent des concentrations surévaluées. Et en plus, dans la plante, il y a souvent d'autres phytocannabinoïdes, comme le cannabichromède, le cannabiciclol ou le cannabivarérol. Comme quoi, il y en a des différents. Hein.
Oui, bah, il y en a plus de 100, donc effectivement, pas étonnant qu'on puisse en trouver d'autres. Il peut même y avoir du THC dans les préparations qui sont appelées full spectrum ou spectre total. Donc il peut même y avoir du THC, mais en tout cas pas plus de 0,3%, enfin moins de 0,3% en fait. C'est la limite européenne. C'était 0,2, maintenant c'est 0,3. Donc, rien de psychotrope, hein, ça risque pas d'être le cas. D'autres fabricants utilise également et ajoute dans ses préparations de la mélatonine pour favoriser, enfin qui peut favoriser l'endormissement, ou des extraits d'autres plantes comme le basilic, le curcuma, la menthe, la mélisse, la verveine, le maca, l'ashwagandha, destiné là encore à optimiser les effets spécifiques voulus. Bon, très bien. Finalement, je me demande si dans toutes ces préparations, il n'y a pas plus de ces produits que du CBD lui-même, quoi, finalement. Voilà, bon, encore une fois, je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Il y en a peut-être qui trouvent ça pas normal que je le dise, mais bon. On nous parle également de terpènes. Oui, il pourrait y avoir des terpènes, effectivement. C'est quoi des terpènes? Bon, c'est des hydrocarbures naturellement présents dans les végétaux et dans les plantes, dans les fleurs. Il y en a aussi dans d'autres plantes, hein, dans plein d'autres fleurs, hein, dans les géraniums notamment. C'est quoi en fait les terpènes? Ça sert à quoi? Bon, en fait, c'est des
goût.
Propriétés fondamentales qui donnent à la plante ses propriétés odoriférentes, surtout odoriférentes. Par rapport, effectivement, les arômes également, ouais, tout ça. Faten Saleh, hein, toujours qui est cité, elle dit que ces terpènes ne servent pas qu'au goût, même si le goût et l'odeur sont la première perception de la présence des terpènes, ce sont des molécules actives qui ont chacune des bénéfices propres. Dans le cas de Hummies, les terpènes choisies l'ont été pour leurs bienfaits supposés et non pour leur goût. Voilà. Il y a aussi des arômes qui peuvent être ajoutés par les fabricants pour faire passer une saveur jugée désagréable. Voilà. Il peut y avoir des produits pas forcément désirables, hein, comme des métaux lourds, par exemple, d'après ce qu'on nous dit. Bon.
Voilà, donc il faut quand même donc garder certaines précautions, tout à fait. Et donc Nicolas Audier dit qu'il existe parfois des interactions entre l'huile et le CBD et certains traitements médicamenteux. Donc il dit que certains produits peuvent entrer en interaction avec d'autres médicaments prescrits aux individus, annuler leurs effets ou ralentir leurs éliminations. Donc en plus, le CBD est déconseillé pendant la grossesse et dès lors que l'on souffre d'une maladie des reins ou du foie. Voilà, il peut également exister des effets indésirables comme des troubles digestifs et ou de somnolence. Dès lors, le spécialiste conseille de faire un test pendant un mois afin de voir si on trouve une efficacité ou pas. Enfin, Nicolas Autier insiste sur l'importance de consulter dès qu'on est anormalement anxieux, déprimé, douloureux ou en cas de troubles de sommeil. Il ne faut pas passer à côté d'un diagnostic.
Ouais, enfin bon, je vois pas bien. Je me trompe peut-être là aussi, mais je vois bien quel genre de soucis on peut rencontrer en consommant ces huiles. Mais peut-être qu'il y a des soucis. Il peut y avoir des soucis pour certaines personnes. Pourquoi pas.
Et donc, si avant de faire de l'huile, il y en a qui font juste des petites mixtures pour pouvoir vapoter. Et donc, c'est News Medical qui nous raconte que le vapotage du cannabidiol est plus nocif que celui de la nicotine.
Oui, alors, finalement, c'est pas le cannabidiol qui est plus nocif, mais c'est plutôt, en fait, les solvants qui sont utilisés dans les produits de vapotage des cannabinoïdes, voilà, qui sont pas les mêmes qu'on utilise pour les produits avec de la nicotine. Donc, ce sont plutôt ces produits-là qui sont problématiques, plus que le cannabidiol en lui-même, finalement, ce qui est normal quand même. Donc, y a des études, ils ont fait une étude, je ne sais pas si c'est la première, enfin, c'est en tout cas l'une des premières qu'on voit passer et qui nous explique un peu tout ça. Donc c'est une étude surtout qui a été effectuée d'abord alors sur des souris et des cellules épithéliales pulmonaires humaines. Voilà. Donc pour les expériences, donc il y a des expériences qui ont été faites in vivo sur les souris et in vitro sur les cellules épithéliales pulmonaires humaines. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc des souris, pour l'expérience in vivo. On a utilisé donc des souris mâles et femelles qui ont été exposées à une bouffée d'aérosol de nicotine ou de cannabidiol pendant 5 jours par semaine. Pardon. L'exposition a ensuite été poursuivie pendant 2 semaines. En ce qui concerne les cellules épithéliales, donc pour l'étude in vitro, des cellules pulmonaires humaines ont été directement exposées à des aérosols fraîchement produits dans un système d'exposition fermé. Et les effets sur la santé des substances exposées ont été évalués en mesurant l'inflammation pulmonaire, le stress oxydatif, les lésions pulmonaires, la cytotoxicité et la perméabilité paracellulaire. Donc, une étude qui est quand même sérieuse, j'ai envie de dire. Après, il y a quand même très très peu d'études, c'est quand même souligné. Pas suffisamment d'études disponibles pour déterminer vraiment les effets sur la santé du vapotage des cannabinoïdes, mais je pense pas trop faire d'erreur en disant que c'est quand même nettement moins pire que de fumer. Donc de fumer quoi, donc de brûler une cigarette avec du cannabis dedans et du tabac. On sait que ça, il n'y a pas pire. Voilà, en termes d'effet sur les poumons.
Ça dépend de ce qu'on respire. Quand on vapote, si tu as ta base est faite avec de mauvais produits, tu vas respirer quelque chose qui n'est pas bon.
Oui, certes. Enfin, après, là, en disant ça, je reprends les propos d'Otzenberg.
Oui.
Voilà, qui disait. Qui s'était quand même exprimé sur le sujet et qui disait quand même qu'il y avait du vapotage bashing et que ce n'était pas une bonne idée et qu'il n'y avait pas pire que de façon que de fumer. Quoi. Voilà. Donc, alors les résultats de l'étude ont montré quoi ? Que le vapotage donc du cannabidiol, mais plutôt, je préfère dire, c'est plus précis, les solvants utilisés dans les dispositifs de vapotage qui contiennent du cannabidiol, eh bien, ça a eu un impact plus néfaste sur les systèmes immunitaires et pulmonaires que le vapotage de produits avec de la nicotine. Voilà. L'exposition aux aérosols de cannabidiol a induit un micro-environnement pro-inflammatoire dans les poumons, comme en témoigne l'accumulation accrue des cellules immunitaires inflammatoires avec une activité élevée des facteurs endommageant les tissus, myéloperoxydase et élastase des neutrophiles. L'exposition au cannabidiol a provoqué une induction significativement plus élevée, je lis hein, les résultats de l'étude, de marqueurs inflammatoires et de lésions pulmonaires que l'exposition à la nicotine. Voilà. Plus précisément, les souris exposées aux aérosols de cannabidiol ont montré des niveaux plus élevés de lymphocytes T, CD4+, et CD8+, et une infiltration plus élevée de neutrophiles dans les poumons par rapport aux souris exposées à la nicotine. De plus, l'exposition au cannabidiol a perturbé l'intégrité de la barrière épithéliale pulmonaire et induit la mort des cellules épithéliales pulmonaires humaines. Voilà. L'augmentation de l'infiltration pulmonaire des neutrophiles chez les souris exposées au cannabidiol est principalement responsable de l'induction d'un micro-environnement inflammatoire et d'un stress oxydatif dans le système pulmonaire qui sont collectivement responsables des lésions pulmonaires.
Et sinon, dans leurs études, par rapport aux souris, ils ont fait un effet placebo ?
Il ne me semble pas avoir lu ça, non.
Bah ouais, c'est étrange, hein. Bref, l'étude démontre que le vapotage de cannabis pourrait être plus nocif que le vapotage de nicotine en termes d'induction d'inflammation pulmonaire, de perturbation de l'intégrité de la barrière pulmonaire et de lésions pulmonaires. Le vapotage du cannabidiol pourrait également augmenter le risque d'infection respiratoire, supprimer les réponses immunitaires aux vaccinations et aggraver les symptômes respiratoires des patients atteints de maladies inflammatoires. Soufflant de maladies inflammatoires pulmonaires préexistantes.
Je vais refaire ta phrase là, parce que tu as un peu mangé. Donc, et aggraver les symptômes respiratoires des patients atteints de maladies inflammatoires pulmonaires préexistantes. Voilà. Donc, peut-être que le vapotage avec les cigarettes électroniques, tout ça, c'est pas forcément la meilleure manière de consommer du CBD. Peut-être que la vaporisation avec un vaporisateur, mais qui n'utilise pas de e-liquide ou de l'huile qu'on mettrait dans ces dispositifs, serait tout aussi, serait beaucoup plus intéressante, beaucoup moins nocif pour la santé, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas mal qu'il y ait quand même une étude qui parle de ça, parce que il y en a quand même très peu, on n'en avait même pas entendu parler jusqu'à... Enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler. Voilà, on va peut-être se remettre un peu de musique.
On va finir le dernier sur le CBD, cancer de la prostate, quand même.
Si tu veux. Donc, c'est un article de Cannabis Therapeutica, qui est un média hispanophone, qui nous fait part de cet article où en fait il semblerait que du CBD utilisé avec d'autres médicaments non psychotropes serait particulièrement efficace pour réduire la croissance du cancer de la prostate chez les souris. Chez les souris, ça veut pas. C'est pas chez les humains, quoi. C'est sûr.
Bah ouais, et puis ils ont plus le droit chez les singes, alors ils font chez les souris.
Oui.
Déjà, les pauvres petites souris. Pauvres petits mammifères, nés pour être des cobayes. Voilà, bon, bref, les cellules cancéreuses, en particulier les cellules cancéreuses avancées, sont capables de modifier leur métabolisme pour soutenir les démarches accrues d'énergie. Cette capacité, également appelée reprogrammation métabolique, joue un rôle clé à la fois dans l'oncogénèse du cancer de la prostate, c'est-à-dire le processus qui conduit à la transformation de cellules normales en cellules cancéreuses, et dans l'acquisition de résistance aux médicaments. en liant le, donc un peu une technique, c'est un truc assez technique où ils utilisent la voie de signalisation mort ou survie cellulaire, donc et en liant cette vie et mort des cellules au CBD, ça provoque une le CBD provoque une accélération du métabolisme des tumeurs, des cellules tumorales, pardon. Voilà, donc des mécanismes compensatoires qui activent ce que l'on appelle la mort programmée ou l'apoptose. On en avait déjà parlé de cette apoptose des cellules créées par le THC. Voilà, et le CBD, ou le CBD d'ailleurs. Et le CBD donc affecte les mitochondries de cellules cancéreuses. Voilà, voilà. Je sais pas si pour finir, on va voir ce que dans un article de la revue Cell Death Distance du réseau Nature, il y a les chercheurs qui ont écrit le CBD cible directement la mitochondrie, en induisant les cellules à l'autophagie et à la mort certaine
cellulaire. Et à la mort cellulaire, pas certaine.
Et à la mort cellulaire, oui.
Voilà.
Mais la mort est quand même certaine. Oui, mais t'as raison. Dans la conclusion, il rapporte que compte tenu du rôle clé des mitochondries dans la reprogrammation oncogène, le CBD pourrait être un candidat plausible à inclure dans des protocoles de chimiothérapie. Et B, il en a fallu du temps.
Ouais, alors, ouais, enfin, en tout cas, l'article est très intéressant. Ça explique un peu ce que fait le CBD aussi. Alors, ils expliquent que ça altère leur capacité des cellules, en fait, à gérer le calcium, ce qui justement entraîne une surcharge une surcharge qui conduit à la mort cellulaire. Voilà, donc c'est intéressant. C'est un peu technique, voire même assez technique. Encore une fois, je rappelle que tous les articles dont on parle à l'antenne, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du Cirque Lyon et un certain nombre aussi sur la page Facebook du Cirque où vous cliquez, vous pouvez trouver les articles que vous pouvez lire et vous pouvez également trouver la source parce que c'est souvent, tout le temps, hein, ces études sont publiées dans des revues scientifiques et dans ces articles, vous avez le lien, vous pouvez cliquer, vous allez vous retrouver sur la page de l'étude en question faite par tel labo ou université ou la revue scientifique qui les publie. Voilà, donc ça pour vous dire que c'est quand même sourcé et qu'on vous sort pas ça d'un chapeau. Donc voilà, page Facebook du Cirque Lyon, vous pouvez retrouver tous ces articles, etc.
Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Espíritu como el abogado de los de San.
Et ben voilà, voilà. Et c'était eux. Et oui, Flo del Franco, la marijuana. Flo del Franco, voilà, voilà, voilà. C'est toujours extrait de, d'un des CD de la double compile de Double Zéro. Donc, après tout ça, on en est où?
Alors, une autre étude.
Une autre étude, ouais. Sur la consommation régulière de cannabis.
Ouais, qui diminuerait la tension artérielle. Voilà. Alors c'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature, intitulée Scientific Reports, que, bah, comme je vous ai dit, vous pouvez consulter l'article sur la page Facebook du Cirque et du Cirque Lyon. Et en consultant l'article, en lisant l'article, vous pouvez également accéder à la revue Nature. Et l'étude est publiée. Donc c'est quand même une grosse, grosse étude qui a été menée sur
156 959 volontaires. On en a exclu 65 798 pour en garder à peu près 91 000.
Ouais, c'est balèze hein, quand même. Alors c'est une étude qui s'appuie sur des informations de la Biobanque du Royaume-Uni. Étude qui a été dirigée notamment par un Français qui s'appelait Alexandre Vallée, qui s'appelle Association entre la consommation de cannabis et les niveaux de pression artérielle en fonction des comorbidités et du statut socio-économique. Et il semblerait, on va pas rentrer dans le détail. Hein,
oui, non, mais ça comprenait un éventail d'individus aux habitudes de consommation et de cannabis variés et qui avaient des niveaux de pression artérielle variés. Bah, 91 000 personnes, c'est normal qu'il y ait un petit peu tout soit représenté. Donc voilà, donc c'est assez rigoureux et ça pourra admettre une exactitude et une fiabilité des données.
Ouais, alors, bon, vite fait, hein,
parce que bon, c'est la réponse n'est pas simple, en effet.
Ouais, alors bon, quand même, pour dire, hein, quand même, ce qu'ils ont évolué, c'est la pression artérielle, à partir de la pression artérielle systolique et diastolique des participants qui a été mesurée deux fois par an par un appareil automatisé, voilà, soit manuellement, voilà. Si la méthode automatisée échoue, ils utilisent souvent un sphygmomanomètre. Un brassard gonflable et un stéthoscope. Donc l'étude aurait utilisé une approche rigoureuse pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données recueillies.
On va lire la conclusion.
Oui, et lisons la conclusion. Oui, tu as raison. Voilà. Venons-en au fait.
Après un examen attentif de l'étude sur la consommation de cannabis et la pression artérielle, il est clair que la relation entre les deux est complexe et a de multiples facettes. Si certaines données suggèrent que la consommation de cannabis peut être associée à une baisse de la tension artérielle, en particulier chez les femmes et les gros consommateurs, d'autres facteurs tels que l'âge, l'origine ethnique et la consommation d'alcool peuvent également jouer un rôle. En outre, les risques cardiovasculaires potentiels associés à la consommation de cannabis ne peuvent être ignorés, en particulier chez les personnes souffrant de pathologies préexistantes ou qui prennent d'autres médicaments. Malgré la nature peu concluante des recherches actuelles, une chose est sûre, l'étude du cannabis et de ses effets sur le corps humain n'en est pas à ses débuts et il en reste beaucoup à apprendre. Alors que de plus en plus d'États et de pays légalisent le cannabis à des fins médicales et récréatives, nous devons continuer à mener des recherches scientifiques rigoureuses pour mieux comprendre les avantages et les risques potentiels. En fin de compte, l'étude sur le cannabis et la pression artérielle nous rappelle qu'il n'y a souvent pas de réponse facile à des problèmes de santé complexes, alors que nous devons continuer à explorer les avantages et les risques potentiels de la consommation de cannabis. Nous devons le faire avec l'esprit ouvert, un regard critique et un engagement envers la rigueur scientifique et la compassion pour ceux qui peuvent être affectés.
Ouais, bon, bah, ça demande d'autres études quand même hein, pour confirmer ou infirmer ce résultat. Voilà.
Il semble plutôt probant, mais bah, c'est pas aussi flagrant que ça.
Voilà.
Bref, légalisation, on en est où avec l'Allemagne?
Voilà, on revient sur un aspect politique.
C'est le cannabis
politique.
Qui me parle de ça.
Ouais. L'Allemagne qui aurait reçu un feu vert de l'Europe très récemment. Alors c'est intéressant parce qu'il y a pas très longtemps on vous parlait de du ministre de la justice allemand qui avait demandé à un expert en droit, un juriste en fait, de lui faire un petit rapport sur l'état de la réglementation internationale et des lois sur le cannabis et les drogues, et que cet expert en gros avait dit que il fallait absolument tout abandonner, qu'on ne pouvait pas légaliser puisqu'on se mettait hors la loi en ne respectant pas la convention unique sur les stupéfiants de 61 et celle de 88 également, et qui conseillait donc aux autorités allemandes de renoncer à ce projet de légalisation. Sauf que précédemment, quand même, l'Allemagne avait fait une demande officielle, enfin une demande, avait soumis son projet quand même au niveau de l'Union européenne. Et il semblerait que l'Union européenne, enfin la Commission européenne, ait confirmé et donné son feu vert à l'Allemagne en disant bon ben effectivement il serait possible de revoir cette loi et d'en faire une qui soit compatible avec les dispositions internationales. Voilà. Donc c'est le ministre de la Santé Karl Lauterbach qui a déclaré donc mardi la semaine dernière qu'une proposition révisée de légalisation serait présentée aux législateurs dans les prochaines semaines.
Mmh.
Donc après avoir reçu de très bons commentaires de l'Union européenne.
Ouais, le brouillon,
super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle.
Le cannabis serait disponible pour les adultes en pharmacie et dans les échoppes spécialisées. L'octoculture légale de 3 plants pour un usage personnel. Amnestie judiciaire et abandon des poursuites en cours. Création d'une fiscalité propre aux produits légaux du cannabis. Voilà, un certain nombre de zones d'ombre demeurent, comme le prix de vente finale, la limitation ou pas du taux de THC, ou encore la quantité légale de cannabis qu'il sera permis de détenir par personne.
Oui, bon, ça fait son chemin, quoi. on va voir ce que ça donne. On nous rappelle, parce qu'on l'a déjà vu dans un autre article, qu'un groupe de législateurs allemands, ainsi que le commissaire aux stupéfiants, Burkhard Blinert, s'était rendu en Californie. Ils avaient visité des entreprises de cannabis, alors c'était l'année dernière, pour s'informer et guider leur approche en matière de légalisation. Bon, au moins, ils ont fait l'effort de se déplacer et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est sûr qu'on peut pas en dire autant de nos dirigeants français. Voilà. Et la visite, il y a également, on rappelle, l'année dernière, il y a eu une rencontre entre de hauts responsables allemands, luxembourgeois, maltais et hollandais qui s'étaient rencontrés, une réunion unique en son genre, hein, pour discuter des plans et des défis associés à la légalisation des usages adultes de cannabis en Europe. Vous entendez des bruits métalliques, ne vous inquiétez pas, c'est juste le...
Tout va bien.
C'est juste le micro qu'on déplace. Voilà. Donc, grâce à cette rencontre, ils avaient fait des modifs sur le document original. Déjà, ils disaient qu'à l'époque, ils avaient eu des bons retours de Bruxelles. Voilà. Donc, c'est ce qu'en tout cas a déclaré le ministre de la Santé mardi au Stuttgart Zeitung, qui est un journal de Stuttgart, donc, sans donner plus de détails. Voilà.
Bref, au final, les adultes en Allemagne devraient avoir un accès facile et sécurisé à des produits propres probablement d'ici l'an prochain.
Alors facile, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit.
Et sécurisé. Ouais. Ah, on verra bien. Ouais. On verra bien l'année prochaine.
Bon. Voilà. Bon, fin de l'article. C'est le cannabis qui donne un peu son avis et qui nous explique que, en France, on en est loin encore et que il y a beaucoup de forces qui se mobilisent pour empêcher toute évolution des choses. Mais ça, malheureusement, c'est vrai. Et est-ce que nous voyons enfin le bout du tunnel, Didier ? Pas sûr, il faudra encore du temps. Donc, visiblement, le cannabiste est un peu sur la même ligne que moi, en fait. Et voilà, il n'est pas spécialement optimiste. Il rajoute, ça aussi il l'a dit d'autres fois, et n'oubliez jamais que la guerre à la drogue est une œuvre raciste, discriminante et injuste, et on est bien d'accord, qui a été inventée pour être élue, mais pas pour être gagnée. La guerre, hein, pas pour être gagnée. Les plus malhonnêtes parmi les prohibitionnistes en place s'en serviraient même pour conserver leur pouvoir. L'Allemagne donne le ton, la France écrira sans doute la chanson si les pinardiers, les lobbies du pétrole et de la pharmacie lui laissent une chance d'évoluer démocratiquement. Car si vous vous demandiez encore par qui et comment sont actuellement votées les lois et les réformes, écoutez ce député insoumis, il aura le dernier mot pour aujourd'hui. Donc ça, c'était dans l'article du cannabis sur son site internet, où effectivement, à la fin de l'article, en dessous, ben, il y a un député insoumis que je pense ne pas avoir écouté. D'ailleurs, bon, voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur l'article du cannabis directement sur le site du cannabiste ou sur la page Facebook du Cirque Lyon pour retrouver l'article et donc le lire en intégralité à tête reposée. Il y a un article qui s'appelle Légalisation. L'Allemagne reçoit le feu vert de l'Europe. C'est un article daté du 15 mars. Voilà. Pour ce qui concerne cet article du cannabiste. Allez, on traverse l'Atlantique.
Et on va au Canada pour qu'on va lire la presse canadienne qui parle de New York.
Ouais. Les Canadiens parlent de New York. Ben oui,
pourquoi pas. Wild West.
Leurs voisins du Sud. Oui, parce que alors à New York, depuis le 29 décembre dernier, il y a eu un magasin de cannabis récréatif qui a ouvert. C'était le 29, c'était le premier.
Le troisième,
c'était. Ah d'accord, oui. Donc bon, oui, une décision locale qui a été prise en fin d'année dernière, qu'on salue d'ailleurs. Et donc le projet, en fait, c'est de permettre à plusieurs boutiques de cannabis légal d'ouvrir. Mais bon, il faut monter un dossier. Enfin bon, il y a tout un travail administratif à effectuer avant de pouvoir ouvrir sa boutique. Le projet, ce serait quand même de donner la priorité à des personnes qui ont été condamnées, poursuivies en justice pour des affaires liées au cannabis, ou même qui ont fait de la prison et qui sont pour beaucoup des personnes issues des communautés noires ou hispaniques, et qui ont été malheureusement les plus condamnées, réprimées, et qui ont fait le plus de prison. On sait bien que les lois sur le cannabis, notamment aux États-Unis, sont des lois racistes. Donc, sauf que voilà. Donc, une fois que ça a été décidé, ben, il se trouve que quand même aux États-Unis, à New York, c'est quand même un peu, j'ai envie de dire, un peu le boxon, quoi, un peu le bordel, dans le sens où il y a que 3 magasins légaux qui ont ouvert.
Et il y a plein de magasins illégaux au milieu.
Alors oui. Alors d'après l'estimation, il y en aurait 1400. Alors peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais c'est quand même beaucoup. Et les autorités commenceraient à s'en préoccuper et seraient prêts à poursuivre un certain nombre de ces des tenanciers de ces boutiques qui vendent du cannabis récréatif et dont certains ont déjà des autorisations et peuvent déjà vendre du cannabis médical. Voilà, il y a eu des descentes, il y a eu des saisies dans certains magasins.
En France, quoi.
Hein ?
Comme partout dans le monde, ou en France.
Oui, alors bon, effectivement, il y a eu des saisies et aussi dans les boutiques en France. Mais en France, il n'y avait pas eu de décision officielle de politiciens qui disaient oui, vous allez pouvoir. Donc les ouvertures de ces boutiques, elles s'étaient faites. En s'appuyant sur des décisions de l'Europe, en fait. Donc c'est quand même un petit peu différent, mais bon, là on n'a pas mis les en tout cas dans l'article on n'apprend pas que les tenanciers ont été interpellés, arrêtés, mis en garde à vue, voire emprisonnés, ce qui s'est quand même passé en France dans certains cas. Donc là il s'est pas passé ça. Alors là, quand même, parmi les boutiques qui ont été saisies, il y en a qui ont pris un peu peur, en fait, et qui sont prêts à revenir un peu en arrière, parce que bon, ils ont l'autorisation et la possibilité de vendre des produits à base de CBD, et voilà, donc notamment cette boutique, hein, le propriétaire qui raconte un peu ce qui lui est arrivé, et les polices qui lui ont dit, voilà, on est ici pour effectuer une fouille, nous avons entendu dire que vous avez des choses que vous n'êtes pas censé avoir, qui est donc propriétaire de Popped New York City. Et ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ils sont repartis avec un grand sac poubelle rempli de cannabis. Hein, voilà ce qu'il dit, quoi. Et donc, Evan Forge et sa femme, Laura, ont depuis cessé de vendre des produits de cannabis, voulant pas risquer de perdre justement leur permis de vente de produits au CBD. Voilà. Mais en tout cas, cette Laura Forge, hein, elle ne croit pas que les mesures de saisie ou d'éviction aient le même effet sur les plus gros magasins illégaux, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus gros. Et ils disent, bon, pour eux, c'est un peu, en gros, hein, fait partie de leur business plan, hein, ça fait partie du coût des affaires, d'après ce qu'elle dit. Mais en tout cas, il semblerait que les établissements légaux ne souffrent pas trop de la concurrence illégale. Hein. Nous avons dépassé nos attentes de façon spectaculaire, dit Sacha Nugent, qui est la directrice des ventes de Housing Works Cannabis Co., qui dit « J'ai été stupéfaite quand j'ai vu nos chiffres. » Et elle attribue cette performance à plusieurs facteurs, dont la mission du magasin, qui est d'appuyer une association dédiée aux personnes séropositives ou atteintes du VIH. Les gens apprécient le fait que tous nos produits sont versés à l'association. Ils viennent aussi parce qu'ils veulent avoir l'esprit tranquille. Ils savent que nos produits sont testés en laboratoire, qu'on n'y trouve pas de fentanyl ou d'autres poisons. Oui, aux États-Unis, ça peut être une publicité intéressante aux yeux des consommateurs de savoir que dans les produits qu'ils achètent, et notamment dans des produits, j'allais dire pharmaceutiques, mais en tout cas peut-être parapharmaceutiques, je sais pas. Bref, il n'y a pas d'opioïdes de synthèse ou de fentanyl, notamment.
Dans les produits. Ce qui est bien. Donc, d'où c'est bien que ce soit testé. Ouais. Allez, on finit vite fait avec le cannabis. Le marché du Michigan est une manne pour les collectivités locales.
Oui, alors le Michigan qui a légalisé, je dirais, en 2018. Oui, c'est ça. Les 2018.
Il y a trois ans,
bientôt quatre. Le Michigan qui serait surapprovisionné en herbe, d'après Politico.
Alors déjà, ils sont assez contents. Ils se font 60 millions de dollars par an, donc c'est bien.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Et ils ont beaucoup trop d'herbe, donc ça pose un problème parce que cette surabondance du marché, évidemment. Ça entraîne une chute des prix. Donc l'herbe dans le Michigan n'est pas très fort et il y a déjà plein de magasins donc qui n'ont pas tenu le choc à cause de ce changement.
Alors il y a quand même pas mal de boutiques. Hein. 224 municipalités ont enregistré 1148 licences commerciales l'année dernière. C'est une augmentation par rapport à 163 municipalités et 748 licences en 2021. Une information que j'avais lue également, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une boutique, à chaque fois que des gouvernements locaux ont approuvé la vente récréative de marijuana dans leur comté, leur village, leur canton, leur village ou leur canton recevront environ 51 800 dollars par chaque magasin de détail et micro-entreprise à qui ils ont accordé une licence. Donc effectivement, au niveau de ces communautés, de ces localités, que ce soit village, ville, canton ou comté, ça fait une manne financière en plus qu'ils peuvent recevoir. Cet argent peut ensuite être utilisé pour être pour les écoles, la construction de routes . Donc c'est plutôt positif.
Bah oui, ça permet de rapporter de l'argent dans les caisses des petits États, donc c'est bien.
Ou des petites villes, ouais, exactement. Ouais. En tout cas, ça peut financer des écoles, des constructions de routes, ou des hôpitaux, ou des assos. Bon, bref, c'est très positif.
Ça pourrait même financer la retraite, alors.
Mais bien sûr. Mais avec Darmanin et Macron, je suis même pas sûr que l'idée est même envisagée de traverser leur esprit. Hein, je veux dire, c'est quand même mal barré, quoi. Voilà. Et ça va être tout pour ce Cannabis Circus d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter.
Oui, et faites attention, fumer est pas bon pour la santé.
Voilà.
Tout corps carboné provoque le cancer. Voilà. Bonne semaine à tous.
Et voilà. Et maintenant, c'est Chasseurs de Son. Au revoir. À la semaine prochaine.
chasseur de son, 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 chasseur de son,